Smaïl Lacher, vous êtes l'un des auteurs invités du Salon du Livre du 1er mai à Arras. Ce salon est intitulé « Salon du Livre d'expression populaire et de critique sociale ». Est-ce que vous vous retrouvez dans cette appellation ?
Oui, absolument. Ça ne me pose aucune difficulté. Je comprends ce que ça signifie et je pense que c'est très très important qu'ici et là, il existe des lieux, des institutions, des groupes qui travaillent à être à la fois vigilants et critiques.
Alors dans votre dernier livre, Mythologie du sans-papier, vous abordez la question de l'immigration sous un angle un peu particulier.
Oui.
Le sans-papier, que vous désignez comme l'étranger indésirable, vous le définissez comme par une identité négative. Quel est le propos général de votre ouvrage ?
Je souhaitais regarder et examiner cette question un peu différemment, c'est-à-dire m'écarter des discours à la fois politiques et militants sur les sans-papiers, et plutôt prendre prétexte des sans-papiers pour analyser des pratiques et des institutions qu'on regarde peu, finalement, sauf sous l'angle de la dénonciation et de la critique radicale, l'État et les institutions. Donc, au fond, parler des sans-papiers, c'est la société qui parle d'elle-même, ce sont les institutions qui parlent d'elles-mêmes, c'est l'État qui parle de lui-même. Voilà. Donc, en réalité, quand on fait de la sociologie sur ces populations-là, c'est-à-dire des populations relativement en marge, ou en tout cas qui ont des problèmes avec le droit, on regarde assez peu le poids considérable que tiennent les institutions et l'État dans la définition de l'identité de ces personnes.
Alors, le sans-papier, vous l'indiquez, il a une invention historique qui est finalement assez récente, début des années 70.
C'est les années 80. Il y a d'abord eu le clandestin, parce que le clandestin a, lui, directement parti lié à la frontière. Au milieu des années 70, souvenez-vous, on ferme les frontières, ou en tout cas, c'est présenté comme tel. Et exactement dans le même mouvement que la fermeture des frontières, on inventait la figure du clandestin. Avant 74, les gens, d'ailleurs on allait les chercher, où ils entraient, ils travaillaient, puis on les régularisait après coup. Ça ne posait pas de difficultés majeures. Au fond, l'immigration était une affaire de l'économie, et non pas de l'État. C'est à partir de 1974 que l'immigration est devenue une affaire d'État. Et donc l'État, lui, a des relations extrêmement étroites avec les frontières. C'est même un élément constitutif de son identité, de ses attributs, de sa souveraineté. Et quand il a décidé de fermer les frontières, c'est-à-dire de redéfinir les modalités d'inclusion et d'exclusion à l'ordre national, eh bien du même coup, on a inventé la figure du clandestin.
Et récemment, la figure du sans-papier. Alors la figure du sans-papier est définie à la fois par l'attitude de l'État et aussi par une auto-désignation par lui-même.
Exactement.
Du sans-papier.
Exactement. Alors qu'au fond, on pourrait dire ça comme ça. L'État invente le clandestin et les luttes sociales inventent le sans-papier. On n'est plus du tout dans les mêmes registres. Le sans-papier, d'abord, est un nom collectif. C'est une cause collective. Ce sont des gens qui demandent à rester en France. Ce sont des personnes qui, très généralement, travaillent, sont là depuis plusieurs années en France. Au fond, ce sont presque des immigrés ordinaires. Ce sont des immigrés ordinaires sans documents. Voilà, sans documents officiels. Ce que j'ai appelé le clandestin, cette invention d'État, cette catégorie d'État, eh bien, elle est plutôt partie liée à l'humanitaire. Souvenez-vous Sangatte. Souvenez-vous de Calais, ou du Calaisis aujourd'hui, encore aujourd'hui, où ce sont essentiellement les humanitaires qui s'occupent de ces populations, alors que les sans-papiers ce ne sont pas les humanitaires qui s'en occupent, ce sont plutôt des partis politiques, plutôt des syndicats, plutôt des associations de lutte pour la défense des droits des immigrés, etc.
Vous êtes toujours dans Info 30 sur le 99.9 de Radio PFM. Nous retrouvons Smaïn Lacher, interviewé par Jean.
Alors vous mettez aussi en évidence une situation complexe pour le sans-papier dans la relation entre légalité et illégalité et dans l'attitude de l'État. Et vous parlez même de deux États.
Oui, il y a un sans-papier, il y a deux États. Parce que si on pense l'État comme une institution homogène, sans faille, etc., on ne comprend pas très bien quelles sont les relations qu'entretiennent les institutions d'État à ces populations qui sont embarrassantes pour elles. Il y a les institutions qui ont à connaître, car c'est leur vocation première, de la légitimité de la présence de ces populations. Et puis, il y a des institutions qui n'ont pas à connaître de la légitimité de la présence de ces populations dès lors qu'elles rentrent dans leurs frais, si je puis dire, dès lors qu'elles y retrouvent leurs petits. Voilà, il y a les institutions de répression et il y a les institutions de ponction et de redistribution. Ce ne sont pas les mêmes. Le responsable de la sécurité sociale ou du droit du travail, ou l'inspecteur du travail, ce n'est pas la police. Voilà. Et donc, ils ont affaire à des sans-papiers qui ne sont pas identiques.
Pour l'inspecteur du travail ou pour l'inspecteur de la sécurité sociale ou de l'URSSAF, du moment que les cotisations sont payées, il n'y a pas de problème ?
Oui, absolument. J'ai personnellement, lors de mes enquêtes, suivi des brigades composites. Les brigades composites sont des brigades composées d'un responsable du fisc, du Trésor, d'un responsable de la sécurité sociale, d'un responsable de la police, un inspecteur du travail. Et quand il débarquait, par exemple, dans un atelier clandestin ou dans une boutique, la première chose qui les préoccupait, c'était de remonter au donneur d'ordre. C'était pas forcément d'arrêter tout de suite ceux qui travaillaient. Moi, j'ai vu, de mes propres yeux vu, des policiers qui n'avaient pas arrêté des gens qui étaient sans documents. Et quand je leur demandais pourquoi ils n'arrêtaient pas ces personnes sans documents, elles me répondaient que ce n'était pas ces personnes-là qui les intéressaient prioritairement, mais plutôt ceux qui les embauchaient et ceux qui travaillaient pour des entreprises plus importantes, pour les donneurs d'ordre.
Alors, le sans-papier, il a un parcours un peu particulier. Il est à la fois dans le champ de la légalité et de l'illégalité. Il n'a pas de papier, mais à côté de ça, ses enfants peuvent aller à l'école, il peut cotiser et être par ce biais-là.
Il cotise sous une fausse identité.
Hein. Oui.
L'étranger sans document est un étranger dont la présence est illégale, de bout en bout. Mais il est vrai que, par exemple, pour la scolarité des enfants, par exemple, pour les soins d'urgence, il y a des exceptions à la règle. Mais parce que là, on est plutôt dans le registre de la morale, bien plus que celle du droit. On ne peut pas laisser des enfants sans scolarité. Et on ne peut pas ne pas soigner des gens qui sont malades.
Voilà. Mais bien souvent, le sans-papier passe par des phases où il est en situation légale. Par exemple, s'il a un titre provisoire...
Oui, absolument. Il peut y avoir de la discontinuité dans la continuité jusqu'à la régularisation finale. Bon, au fond, le voyage du sans-papier n'est pas simplement un voyage dans l'espace ou à travers d'une pluralité d'espaces territoriaux, c'est aussi un voyage au travers de catégories et de différents statuts. On peut arriver comme demandeur d'asile, être débouté du droit d'asile, avoir été régularisé pendant... un certain temps, ne plus être régularisé, retomber dans la condition de sans-papier, puis redemander une autre une régularisation administrative, puis l'obtenir, etc. Voilà. On est aujourd'hui de plus en plus dans ce cas de figure.
Alors pourquoi cette figure du sans-papier et cette question de l'immigration sont-elles si présentes, des questions aussi obsédantes aujourd'hui, au-delà de l'utilisation évidemment politicienne de la question? En fait, vous considérez cette figure du sans-papier comme un analyseur pertinent de la situation politique?
Oui.
Et de, plus généralement, de la définition de la nationalité ou de la citoyenneté?
Oui, absolument. Et je pense qu'il n'y a que les autres qui vous obligent à vous regarder et à réfléchir sur vous-même. Au fond, l'étranger est le moyen, voulu ou par accident, de dénaturaliser le rapport naturel que nous avons au monde. Un État, c'est pas quelque chose de naturel. Toutes les sociétés n'ont pas d'État. Vous regardez la Somalie, il n'y a pas d'État. L'Irak a vécu sans État. Il y a des États déliquescents, il y a des États qui sont privatisés, il y a des États qui n'ont d'État que le nom, etc. Donc, réfléchir sur soi, regarder ce qui va et ce qui ne va pas, il faut y être forcé. Il faut y être contraint. Et celui qui vous contraint, c'est en règle générale, pas systématiquement, mais en règle générale, l'intrus. L'intrus. Mmh. Celui qui arrive et qu'on n'attendait pas. Celui qui arrive et qu'on n'avait pas invité. Il vient et il dérègle l'ordre naturel du monde. Et il vous oblige donc à repenser et à redéfinir l'ordre dans lequel vous êtes inscrit. Et le sens de l'ordre dans lequel vous êtes inscrit.
Vous êtes toujours en compagnie de Smaïn Lacher.
Alors, en Europe, on compte des millions de personnes qui sont dans cette situation du sans-papier, des personnes qui sont là, qui vont y rester de toute manière, dans des situations très, très précaires. Et cette mise à l'écart, comme vous le dites, de millions de personnes aux lisières du monde des hommes, pour vous, ça constitue une destruction du monde et des personnes. Et vous mettez en cause non seulement la globalisation économique, ce qui est en général le phénomène que l'on désigne, mais aussi ce que vous désignez comme la protection angoissée de l'identité et des identités.
Oui, mais alors ça, ce n'est pas simplement vrai. Ça, vraiment, j'insiste, c'est pour moi très, 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 très important. Ce n'est pas seulement vrai pour l'Europe. Ce n'est pas simplement vrai pour un pays comme la France. En Europe et en France, ça peut s'expliciter, ça peut être énoncé, ça peut faire l'objet de débats. Il y a des pays où c'est absolument interdit d'en parler. Il y a un très grand nombre de pays où parler de cela peut valoir une peine de prison ou des châtiments extrêmement forts. Donc, la question de l'identité n'est pas seulement une question européenne. C'est une question qui traverse toutes les sociétés et de plus en plus de sociétés se retrouvent en leur sein avec des populations embarrassantes. C'est-à-dire qui ne leur appartiennent pas, mais dont elles ont d'une manière ou d'une autre la responsabilité. Voilà. Et cette question de l'identité est importante. Deux séries de chiffres, simplement pour vous dire à quel point c'est important.
Oui.
Deux séries de chiffres. Depuis 1991, il y a 226 000 kilomètres de frontières en plus. En 1945, nous étions à peine 153 États. Nous sommes pas loin de 180 États en 2007.
Alors paradoxalement, la question justement des sans-papiers pose le problème du franchissement des frontières et de leur suppression d'une certaine manière et de la liberté de circulation.
Pas de la suppression, de leur démocratisation. Moi je ne suis absolument pas pour la suppression des frontières parce que je ne suis pas fou. La suppression des frontières nécessiterait un monde policé, sans conflit, où les choses les plus importantes seraient des choses communes, ce qui, bien évidemment, n'a strictement aucun sens. Quand vous savez même qu'à l'intérieur des familles, il y a toute une série de frontières visibles et invisibles. Il y a des choses qui se disent, qui ne se disent pas, il y a des choses qu'on peut franchir, il y a des choses qui sont infranchissables. Il y a des accès autorisés, puis il y a des accès interdits selon le moment, la nature des activités qui s'y déroulent. Donc non, il ne s'agit pas de suppression des frontières, il s'agit de leur démocratisation et en particulier il s'agit de réduire les asymétries entre les sociétés et de repenser les conditions des placements entre les nations, des populations, quelles qu'elles soient. C'est en ces termes qu'il faut poser le problème, et non pas du tout en termes de suppression des frontières.
Alors, un dernier mot, vous êtes juge représentant le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies à la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Comment vous voyez l'évolution de la politique d'asile en France ?
Écoutez, paradoxal, la CNDA est plutôt un lieu, plutôt une juridiction administrative relativement ouverte. C'est une juridiction qui juge des recours, c'est-à-dire de gens qui ont été déboutés par l'OFPRA et qui repêchent un grand nombre de personnes. Et l'autre aspect, c'est que nous assistons en France, mais ailleurs aussi, et probablement encore plus ailleurs qu'en France. Il suffit pour cela de regarder les chiffres en matière de demande d'asile. On assiste à une restriction du droit d'asile, à un grignotage continu du droit et de la protection des personnes en matière de droit d'asile.
Alors pour terminer, votre prochain livre, je crois qu'il est déjà annoncé en 2010, un dictionnaire.
Il y a deux dictionnaires. Il y a un dictionnaire pour Larousse qui va porter sur l'immigration en France. Il y a un dictionnaire pour les puffs qui sera un dictionnaire critique sur les faits migratoires dans le monde. Pour Larousse, c'est prévu en 2011. Pour les puffs, c'est prévu en 2013. Et pour la fin de l'année, je vais publier un livre aux éditions La Dispute sur les violences faites aux femmes migrantes pendant leur parcours clandestin.
D'accord. Eh bien, Smaïl Lacher, on se retrouve au Salon du Livre du 1er mai à Arras.
Oui, absolument, avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.